Même audio. Vous ne l'avez pas vu? Vous pouvez l'entendre.
Je vais vous présenter rapidement nos trois intervenants, qui sont donc, ça a été dit, tous les trois membres du Conseil des sages de la laïcité et des valeurs de la République, pour donner le nom entier, qui, si je ne me trompe pas, est assez récent, c'est 2018, donc ça fait à peine 7 ans qu'il existe. Ils ont tenu à me dire quand même qu'ils ne parlaient pas au nom du Conseil des sages. Ils sont là en leur nom propre, même s'ils appartiennent tous les trois au Conseil des sages. Voilà. À mes côtés, donc, Frédéric de la Morena, qui est maître de conférence en droit public à l'Université Toulouse-Capitole, qui est, alors, outre le Conseil des sages au niveau national, elle est également membre du Conseil départemental de la laïcité et des valeurs de la République, et elle a supervisé plusieurs colloques sur le thème de la laïcité. Elle est auteure d'un ouvrage intitulé « Les frontières de la laïcité ». Yannis Roeder, il est professeur agrégé d'histoire dans le 9-3, comme il a dit aux jeunes, qui connaissait le numéro du département, c'est un des seuls qu'on connaît comme département quand on est jeune, on apprend les autres après, qui est le parrain du conseil départemental de la laïcité et des valeurs de la République, qui a été prix Jean Zay 2022. Alors le prix Jean Zay, c'est un prix qui récompense un ouvrage qui porte sur la laïcité et les valeurs de la République pour son livre « La jeunesse française, l'école et la République ». Il a aussi notamment écrit « Préserver la laïcité ». Vous avez un stand d'ombre blanche qui est installé là où vous allez retrouver un certain nombre d'ouvrages qu'ont écrit nos trois intervenants du jour. Et enfin, Catherine Kinsler, qui est philosophe, professeur honoraire des universités. On en reparlera, cofondatrice du comité Laïcité République en 1990, donc après l'appel de 1989, donc c'est une date importante dont on va reparler, et qui a écrit elle aussi Laïcité, radicalité, intégrisme, penser la laïcité, qu'est-ce que la laïcité? Mais sa spécialité à la base, c'est la philosophie de l'art, je le dis quand même, je crois que vous aimez beaucoup aussi le rugby. Voilà, donc, pour démarrer, Catherine Kinsler, j'aimerais justement qu'on fasse un petit tour dans le passé, parce qu'on va commencer par une première partie un peu historique, avant d'aborder toutes les problématiques contemporaines. Et j'ai failli tout à l'heure dire qu'on fêtait les 120 ans de la loi sur la laïcité. Mais cette loi de 1905, si je ne me trompe pas, le mot de laïcité n'apparaît pas dedans, dans aucun article. C'est un mot qui est apparu quand, et cette idée qui a donné le mot laïcité vient d'où? Elle s'est forgée comment?
Ça marche? Oui, bonsoir tout le monde, bonsoir. Merci pour cet accueil pour la deuxième fois. Écoutez, oui, le mot apparaît tardivement. À ma connaissance, c'est dans le dictionnaire de pédagogie de Ferdinand Buisson en 1887, mais il y a peut-être d'autres occurrences, mais c'est à peu près à cette époque-là. Bon, la chose et le concept sont antérieurs. Enfin, ça commence avant, bien sûr, vous l'avez dit. Ça commence avec, pas seulement la philosophie des Lumières, avec la philosophie politique classique de la fin du XVIIe siècle. En gros, hein, on peut dire ça, hein, comme ça. L'idée de séparation entre l'association politique, ce que nous appelons le politique, la cité, et puis l'association religieuse. Cette idée-là, eh bien, elle est abordée par des grands philosophes du XVIIe siècle. Spinoza, Bayle, il faut dire Bayle, hein, c'est bien, comme ça. Locke, en particulier, mais elle n'est pas complètement développée. Par exemple, Locke distingue complètement, vraiment très facile, très, très distinctement l'association religieuse et l'association politique, mais il dit qu'on ne peut pas admettre les athées dans l'association politique.
Bon. C'est provocateur à l'époque, quand il commence à en parler
Il n'admet pas non plus les catholiques.
D'accord.
Parce que, voilà, ça, c'est provocateur. Bon. Donc, cette idée, l'association politique, bon, c'est à la Révolution française qu'on va vraiment atteindre la racine. On va dire, mais non, on va aussi admettre les athées. Pourquoi? Parce que l'association politique n'a pas besoin, pour se constituer, pour exister, pour faire des lois, elle n'a pas besoin d'une référence religieuse. On peut s'en passer. C'est un minimalisme, en quelque sorte. Hein, on s'en passe. Donc, on va jusqu'à la racine. Alors ça, c'est quand même à la Révolution française que ça apparaît. L'un des premiers actes, c'est l'état civil, en 1792. Mais il y a aussi la Déclaration des droits, l'article 3. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation et nulle part ailleurs. C'est l'autonomie du politique. Voilà. Alors après, bien sûr, ce sont les grandes lois du 19e siècle, c'est la loi de 1905 dont nous allons parler.
Alors je vais donner la parole à Yannis Röder pour poursuivre un peu, puisque effectivement on parle de la loi de 1905, elle n'arrive pas de nulle part. Il y a un chemin qui se fait. Est-ce qu'on peut vraiment dire qu'en traduction juridique, ça commence à la Révolution française, même si les idées ont cheminé avant ?
Alors, oui, vraiment, très clairement, en réalité, c'est la Révolution française qui marque une vraie rupture. Ne serait-ce... Alors, Catherine Kinsler a cité l'article 3 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Moi, je vais citer l'article 10. Voilà, l'article 10. « Nul ne peut être inquiété pour ses opinions, même religieuses. » Et ça, c'est quelque chose qui nous paraît aujourd'hui une évidence, mais c'est totalement révolutionnaire, en réalité. C'est totalement révolutionnaire parce que il faut bien comprendre que avant la Révolution française, il était impossible de se dire non-croyant, impossible de se dire athée ou même agnostique. Ce n'était pas accepté et on pouvait mourir de cela. Hein, certains sont morts, évidemment je renvoie au fameux chevalier de la Barre, bien sûr, qui a été accusé de blasphémer. Mais donc là, il y a une dimension tout à fait nouvelle. Chaque, et ça c'est le produit directement de la philosophie des Lumières, on existe en tant qu'individu. Voilà, et ça c'est... Alors ça semble évident qu'on existe en tant qu'individu. Mais ce n'était pas si évident que ça, ce n'était même pas évident du tout. On existait en tant que partie d'un tout, hein, d'un groupe, d'une communauté, d'un corps. Là, on existe en tant qu'individu. Et à partir du moment où on existe en tant qu'individu, ce que nous dit cet article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, c'est que nous avons la capacité de penser par nous-mêmes. Voilà. Et ça, c'est tout à fait nouveau et c'est une vraie rupture. C'est une vraie rupture et qui va en entraîner, bien sûr, d'autres. Mais oui, je crois vraiment que la Révolution française marque une rupture profonde.
Dans les grandes dates, ensuite, entre 1789 et 1905, quelles ont été les avancées par rapport à cette idée de laïcité ? Parce que là, pendant une révolution, on édicte un certain nombre d'articles, mais c'est, comme vous l'avez dit, c'est révolutionnaire. Donc il faut que tout ça entre aussi dans les mœurs et que la société s'organise par rapport à ça. Quelles sont les grandes étapes après qui ont jalonné le 19e siècle, en fait, dès le début du 19e siècle ? Bien sûr, n'hésitez pas.
Non, juste sur la révolution, effectivement, la liberté de conscience est quelque chose de très important. J'ajouterais que la liberté de conscience, ce n'est pas la liberté de croire, de ne pas croire ou de changer de religion. La liberté de conscience est la liberté de penser. C'est la liberté d'avoir des opinions, la liberté d'avoir des convictions qui peuvent être religieuses, mais qui ne sont pas exclusivement religieuses. C'est en ça que les révolutionnaires apportent quelque chose d'absolument fondamental. Nul ne peut être inquiété pour ses opinions, virgule, même religieuses, ce qui suppose qu'on peut en avoir qui ne soient pas religieuses. Il y a une autre liberté, si je peux me permettre, à la révolution, c'est la liberté de culte. Qui est là, pour le coup, la liberté de manifester, d'exprimer, d'avoir des rites, des pratiques, de se constituer en communauté religieuse. Alors pourquoi ces deux libertés sont importantes à la Révolution ? Parce que ce seront les deux qui seront reprises en 1905. Et l'autre apport important en 89, c'est la constitution, la constitution de cette séparation qui ne va cesser de s'approfondir jusqu'en 1905, entre un champ politique qui est laïcisé, c'est-à-dire qu'on a toujours dans le champ politique des gouvernants, des gouvernés, mais le grand changement révolutionnaire, c'est que l'origine du pouvoir n'est plus divine. Et le roi Louis XVI, avant qu'il soit décapité, est fait représentant de la nation par les révolutionnaires. Ça, c'est absolument fondamental. C'est pour ça que le premier principe républicain, c'est la souveraineté nationale, comme tu le rappelais dans l'article 3. Et donc, on a cet espace politique qui n'est plus fondé sur la religion, qui n'est plus fondé sur une souveraineté divine. Et à côté, on a une société, petit à petit, qui commence à se séculariser. C'est-à-dire, alors c'est en germe en 89, hein, sous la troisième, ce sera plus important. Mais ça veut dire quoi, une société qui se sécularise ? C'est une société dans laquelle certaines activités qui avant étaient gérées par l'Église, et heureusement que l'Église s'en occupait, heureusement, certaines activités vont être transférées à l'État. Et on a l'État civil, mais on a aussi les soins et surtout l'instruction publique. Voilà, je voulais revenir parce que sans ces bases-là révolutionnaires, on n'a pas 1905 et on n'a pas la révolution.
Yannis Roder.
Un petit mot.
La séparation.
Un petit mot sur la liberté de culte. Ça aussi, c'est absolument fondamental. On se dit souvent que l'édit de Nantes qui est venu consacrer la paix civile, en fait, la fin des guerres de religion, était un édit justement qui permettait voilà, la liberté de culte. En fait, non. L'édit de Nantes ne permet pas la liberté de culte. Elle permet la liberté de culte dans les endroits qui sont prédéfinis, hein, là où les protestants existent. Et surtout, l'idée qu'il y a derrière, c'est que de toute façon, un jour, la France reviendra à l'unité catholique. Voilà. Et c'est ça qu'il y a derrière.
Une tolérance.
Alors, c'est une tolérance, voilà. C'est une sorte de tolérance, on peut le dire comme ça, mais vraiment très limitée, et avec l'idée que les protestants sont dans l'erreur, et ils reviendront au bercail, en fait. Hein. Quant à l'autre culte existant en France à l'époque, le culte juif, les juifs sont de vrais parias, hein. Ils vivent en périphérie de la société, aussi bien géographique que juridique. Ils ont des droits qui sont très limités. Ils ont un droit de culte, mais qui est très limité, surveillé. C'est donc la liberté de culte en 1789, c'est quelque chose d'absolument exceptionnel. Voilà, exceptionnel qu'on ait le droit, où que l'on soit, de pouvoir accéder au culte et pratiquer le culte que l'on veut. C'est un progrès absolument immense.
Au niveau de alors on dit la société va se séculariser lentement. Bon, il y a le principe révolutionnaire, il y a tout qui change. Au niveau de l'école, qu'est-ce qui se passe après 1789 et qu'est-ce qui va rythmer les changements dans l'école?
Alors, écoutez, je me permets de revenir, enfin, de compléter un petit peu. Enfin,
j'essaie d'avancer dans le temps, mais
d'ailleurs
hein, des flux et des
voilà,
reflux.
On rompt avec le régime des cultes reconnus. Il faut quand même le dire aussi comme ça, parce que avant 1905, l'Église tenait les registres d'état civil, faisait tout, d'une certaine manière, tous les actes de la vie civile que nous avons l'habitude d'accomplir en allant à la mairie, en demandant, en se mariant, etc. C'est l'Église qui contrôlait. Et inversement, l'État contrôlait l'Église. Ça, on oublie toujours de le dire aussi. Bon, il y avait, voilà, seul concordat. Mais il faut quand même le redire, je crois. Et il y a eu une séparation avant 1905, très nette. C'est celle de la Commune de Paris. Il faut quand même le citer, ça. 1871, la Commune de Paris.
Alors, moi, je n'y étais pas encore.
Inventé,
hein. Je partais de la Révolution.
Elle a inventé. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe avec l'école? Bien, écoutez, ce sont les grandes lois scolaires de 1882, 1886, hein, la loi Goblet, notamment, les congrégations.
Alors, on peut rappeler, voilà. Hein, parce que pour beaucoup de monde, d'ailleurs, je pense, et pour les plus jeunes en particulier, ça peut être bien, derrière les noms des lois, de rappeler précisément ce qui a été acquis à ce moment-là.
C'est la création de l'instruction publique, mais là encore, la Révolution française avait beaucoup travaillé. Il y avait eu des rapports sur l'instruction publique, où on disait, voilà, l'instruction doit être la même pour tous, elle doit pouvoir accueillir tout le monde, mais elle ne peut pas être sous la coupe d'une religion, ou de religions, même de plusieurs religions. Donc, il va falloir séparer l'enseignement de la morale de l'enseignement religieux, il va falloir entièrement, au fond, passé par l'appropriation des savoirs. Il n'y a rien de plus laïque que le savoir. Parce que quand vous savez quelque chose, eh bien, vous êtes votre propre autorité. Hein, peut-être on reviendra
là-dessus. J'aimerais savoir très précisément ce qui s'est passé entre la Révolution, où on affirme ses principes, et un siècle plus tard quand même, les lois scolaires. Donc on dit que l'école, elle est laïque, que les instituteurs vont être laïques. On a 100 ans qui sont passés. Comment a évolué la société? Est-ce que ça s'est fait extrêmement lentement? Est-ce qu'il y a des professeurs laïcs, mais qui n'avaient pas le droit d'être laïcs ou qui avaient le droit... Comment ça s'est fait très concrètement?
Je crois que les historiens seront bien mieux à même de répondre que moi.
Yannis Roder, en plus, professeur.
Alors, effectivement, on a commencé à penser l'école. Et on a pensé l'école avec notamment la loi Guizot en 1833, où on doit ouvrir une école communale de garçons.
Oui.
Pas rigoler quand même. Donc une école de garçons, hein, voilà, les filles ça viendra après, mais donc une école de garçons, Et puis, les lois Falloux, hein, 1850, avec l'enseignement qui est à ce moment-là confié hein, aux congrégations, aux cultes, aux prêtres, etc. Et donc, on développe l'enseignement, si vous voulez, l'enseignement se développe, mais de manière très inégalitaire. J'ai parlé des femmes, mais il faut aussi avoir l'idée que l'enseignement secondaire n'est pas accessible en réalité, ou très peu accessible aux enfants de classes sociales défavorisées, ou même des classes moyennes. Hein. C'est quand même un enseignement très limité. Et il faut attendre, effectivement, hein, 1882, les lois Ferry, 1881-82 pour être précis, qui instaure l'enseignement public, gratuit, laïque, et donc qui va permettre aux enfants, et obligatoire, j'ai oublié quand même, c'est important, et obligatoire, et même pour les filles, donc... C'est très important. Et là, à ce moment-là, effectivement, les enfants de France vont aller à l'école. Cette école, donc, 82, vous savez, ce qui est important, c'est qu'on laïcise les enseignements. Ce n'est pas l'école qui devient laïque, en fait. Ce sont les enseignements, ce qu'on va enseigner, qui devient laïque. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, un enseignement qui devient laïque? Je crois qu'il faut peut-être préciser. C'est un enseignement qui est basé sur la science et sur la raison. Voilà. Et qui va, Catherine pourra compléter, hein, et qui va être offert, littéralement offert à tous les enfants de France, avec une idée qui est très importante, parce que la laïcisation de l'enseignement est absolument inséparable du projet politique. Du projet politique. Le projet politique, c'est la pérennisation de la République. C'est-à-dire, c'est de faire en sorte que tous les enfants de France ne soient plus soumis au seul magistère de l'Église, hein, puisque l'immense majorité des Français sont alors catholiques. Il y a deux communautés religieuses très minoritaires qui sont la communauté protestante et la communauté juive, qui bien sûr ne sont pas sous le magistère de l'Église, mais sont vraiment très minoritaires. Et donc l'idée, c'est d'offrir la possibilité à tous les enfants de France d'accéder à un savoir basé sur la science et sur la raison. Et en 1886, une autre loi, la loi Goblet, celle-ci va laïciser, cette fois, les enseignants. Et donc, on va mettre à la porte de l'école les congréganistes, les prêtres, etc., qui enseignent. Voilà. Et les profs arrivent en masse, ceux qu'on va appeler les hussards noirs de la République. Voilà. Et donc, on laïcise l'enseignement et on laïcise le personnel enseignant.
Frédéric de la Morena, par rapport à ce moment-là, ça, vu de notre époque, ça paraît, aux États-Unis, on a le terme de turnover. Ça a été un grand chambardement, en 1886, parce qu'on dit, on remplace tous les enseignants par congrégationnistes par des enseignants laïcs. Enfin, ça a dû être une année un peu particulière.
Des années particulières. Alors, le mot laïcité, il est rentré en droit dans les lois, Ferry. La première fois que le terme laïque intervient dans un texte juridique, c'est à propos de l'école. Et l'école publique, c'est le seul service public qualifié de laïque. C'est pour ça que c'est très important. Et les lois scolaires, c'est une révolution. Oui, c'est une révolution. La laïcité scolaire, c'est la laïcisation des programmes, des manuels. Le catéchisme se fait en dehors, voilà, c'est l'instruction publique qui remplace la catéchèse, c'est la laïcisation des personnels, mais c'est aussi la laïcisation des bâtiments, des lieux, on enlève les crucifix dans les écoles, etc.
Parce qu'avant, il y avait le crucifix, on devait faire la prière sans doute au début de cours, des séances de catéchisme, tout ça disparaît.
Voilà, et en fait, pourquoi c'est très important? Parce que les lois scolaires posent la séparation entre l'élève et l'Église. C'est ce que dit Yanis. Construire sa propre autonomie, construire son autonomie de jugement pour prendre ses décisions seule, c'est séparer l'élève de l'Église. Et sans les lois scolaires, on n'aurait pas eu 1905. Voilà.
Catherine Kinsler, j'ai un petit mot par rapport à ce qui fait foi à partir de ce moment-là. Yanis Röder l'a dit. On avait une sorte de vérité révélée qu'apportait l'Église par rapport aux enseignements et au contenu des enseignements. Est-ce que c'est indissociable, ce grand chambardement de l'idée de vérité scientifique, parce que vous faites partie tous les trois du Conseil des sages, mais est-ce qu'à cette époque, il y a un conseil des programmes pour dire, c'est des problématiques très actuelles, qu'est-ce qui est la vérité, qu'est-ce qui est scientifique, qu'est-ce qu'on peut apprendre aux élèves de façon sûre et qui peut être partagé par tout le monde ?
Oui, écoutez, on ne peut pas dire non plus que les écoles n'apprenaient rien aux élèves. La France n'était pas un désert intellectuel.
Non, ils n'apprenaient pas rien, mais ils apprenaient mais certains enseignements.
Voilà, mais tout était sous la coupe de l'autorité divine, de la reconnaissance des cultes. Il faut rappeler aussi que les prêtres étaient des agents de l'État, hein, étaient fonctionnaires. Faut quand même, ils étaient payés par l'État. Bon, c'est quand même important de le rappeler. Donc, c'est une rupture avec tout cela. Non, la conception du savoir que va instaurer l'école républicaine, d'abord, elle ne supprime pas l'école privée. Il y a toujours des écoles privées. Elle instaure un jour de vacances pour que l'éducation religieuse, s'il y a lieu, puisse se faire dans les familles. Je rappelle que l'école n'était pas obligatoire au sens de la fréquentation de l'école. C'est l'instruction qui est obligatoire. Et c'est toujours vrai aujourd'hui. C'est toujours vrai aujourd'hui. C'est pour ça qu'il est très important. Ce que l'État contrôle, ce sont les programmes. Ce sont les programmes scolaires. Et c'est toujours vrai aujourd'hui. C'est très important de contrôler les programmes, de contrôler les examens nationaux. Sinon, ça se disperse. Et là, on a des sectes, on a des écoles maison, etc. On n'a plus de diplômes. Ça a été pensé depuis la Révolution française, mais mis en place par les grandes lois scolaires de la fin du XIXe siècle. Voilà. Alors, la conception du savoir, la raison, l'expérience, mais même l'éducation. Je prends l'exemple de l'éducation physique. Vous allez me dire, elle a raison. Ben, si, justement, c'est la différence avec un entraînement. Quand vous faites de l'éducation physique, le professeur vous explique le mouvement. Il vous apprend le mouvement contraire, comme au rugby. C'est important, le mouvement contraire. Il vous explique que, apparemment, vous sautez mieux quand vous prenez l'élan d'une certaine manière, mais finalement, si vous faisiez autrement, il faut travailler, il faut prendre l'appel. Voilà, ce sont des choses comme ça. Tout a été finalement pensé à l'aune de l'explicativité, de l'intelligibilité. Donc, ce n'est pas du tout des dogmes. Je prends toujours cet exemple-là, mais si vous dites que la pression diminue avec l'altitude, c'est vrai. C'est vrai. Bon, je parle ici dans une région d'aéronautique, il ne faut pas que je dise de bêtises. La pression diminue avec l'altitude. Mais pourquoi ? Il faut l'expliquer. Donc, on va relire le traité du vide de Pascal. Alors, on ne va pas le faire lire de manière complète à tous les élèves, mais c'est à partir de là qu'on va l'expliquer. Tout est ramené à la question de l'intelligibilité, de la progressivité. Quand on lit les grands rapports sur l'instruction publique, vous en avez deux sortes, en gros. Vous avez ceux qui disent qu'il faut embrigader les jeunes avec la République. Suivez-moi, les gars, faites comme moi. Hein, c'est ça le modèle. Et puis vous avez ceux qui ont gagné finalement. Et ce n'était pas évident, c'était le plus compliqué. Hein, la Canale, Condorcet, Rome. Et qui disent non, ce n'est pas une instruction. Il faut rendre compte, il faut mettre les esprits debout, il faut pouvoir rendre compte. La moindre opération d'arithmétique. Pourquoi ? Alors je prends cet exemple aussi assez souvent. Quand vous faites une soustraction qui a une retenue, vous l'ajoutez au nombre à soustraire. Autrement dit, le plus devient un moins. Et quand vous rendez la monnaie, finalement, vous faites une addition à l'envers. Hein ? Eh bien, voilà, il faut pouvoir... Qu'est-ce que je fais quand je fais une soustraction ? Qu'est-ce que je fais quand j'utilise une retenue dans une soustraction ? Quand un enfant a compris ça, mais il est dans une position divine. Il a compris. Et ça, c'est une chose que les professeurs connaissent bien. Les yeux brillent. Et je crois que c'est le moment que les parents nous envient. Alors, on n'y arrive pas toujours, il faut le répéter, on refait la soustraction, il faut se tromper. Il faut accepter la négativité, non pas simplement comme un défaut, mais comme un moyen. Il faut pousser vers l'erreur, la rectifier. On comprend quand on comprend pourquoi on n'avait pas compris. Eh bien, c'est ce type d'enseignement qui a été mis en avant par les grands rapports sur l'instruction publique de la Révolution française, la partie dont je vous ai parlé, qui a finalement, c'était le plus difficile, c'était le plus compliqué, et qui a été adoptée et mise vraiment en œuvre par les grandes lois scolaires de la Troisième République.
Alors, pour finir cette petite séquence, je donne la parole aussi à Yannis Röder pour expliquer juste pourquoi c'est en 1905 qu'apparaît cette loi. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il manquait dans ces outils, alors presque ces armes pour les hussards noirs, qu'est-ce qu'il manquait dans la panoplie de la laïcité en devenir pour qu'en 1905 soit votée cette loi ?
Eh bien, il manquait la séparation, en fait. Parce que la loi de 1905 vient clore une séquence. Elle vient clore une séquence de laïcisation, on l'a dit, hein, de laïcisation de la société, enfin, sécularisation de la société qui est en marche, et laïcisation des institutions, progressivement, puisqu'on a laïcisé l'état civil, on a laïcisé les hôpitaux, on a laïcisé les cimetières, donc tout cela a progressé. Et finalement, la loi de 1905 vient clore une séquence qui se termine par ce qui manquait, c'est-à-dire la double émancipation, et d'ailleurs c'est Aristide Briand qui parle de cela, de la double émancipation, qu'impose en réalité la loi de séparation du 9 décembre 1905. Cette double émancipation, c'est quoi ? C'est l'État qui se dégage complètement du religieux et le religieux qui est dégagé complètement de la tutelle de l'État. Puisque, Catherine l'a dit tout à l'heure, le concordat, c'était aussi le contrôle de l'État des cultes, des quatre cultes reconnus, qui étaient étroitement contrôlés, surveillés. C'est ce qu'avait voulu Napoléon. La loi de séparation, c'est une séparation stricte qui vient clore cette séquence où peu à peu, justement, le religieux et ce qui touche au politique se séparaient par, on va dire, par pan, hein, par partie. Et là, la loi de 1905 vient acter cette séparation finale entre l'État et les églises, hein, c'est pas l'église, c'est les églises, c'est-à-dire les religions, qui, l'un et l'autre, vont pouvoir librement cheminer chacun de leur côté. Et cela veut dire également que, à ce moment-là, l'État n'intervient plus et l'État devient ce qu'il n'était pas. Il devient a-religieux, c'est-à-dire qu'il ne s'occupe plus de religion. Il ne faut pas se tromper, l'État, la République, n'est pas athée. Elle n'est pas athée. Elle n'a aucune opinion. Elle est a-religieuse, l'État est a-religieux. Voilà.
Je vais relire juste les deux articles, parce qu'on parle beaucoup de la loi de 1905. Les deux premiers, je crois qu'il y a 44 articles, il me semble. Je ne vais pas lire les 44, mais les deux premiers sont assez courts. Et puis derrière, c'est une déclinaison, une application de ces articles. Donc, article 1, la République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après, dans l'intérêt de l'ordre public. Donc ci-après, c'est tous les autres articles. Article 2, la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimées des budgets de l'État, des départements et des communes, toutes dépenses relatives à l'exercice des cultes. Voilà, pourront toutefois être inscrites au dit budget les dépenses relatives à des services d'aumônerie, donc c'est les fameux aumôniers qui ont continué à sévir, et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements publics tels que lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons. Et ensuite, on a donc une longue déclinaison de mesures qui vont être appliquées. Donc, j'aimerais, parce qu'on va être au cœur de ce dont on va parler dans la deuxième partie, la liberté de conscience. Qu'on revienne, alors peut-être Frédéric de la Morena, qu'est-ce que ça veut dire très clairement la liberté de conscience ?
Je peux dire d'autres choses.
Vous pouvez dire ce que vous voulez.
Non.
On est en 1905, tout change.
Il faut la repenser. C'est une loi, c'est pas un pacte, c'est pas un contrat. Voilà, on le lit souvent, la loi de 1905, c'est pas un pacte. Même s'il est laïque, conclu entre l'État et le Vatican. C'est l'État qui décide de sa propre initiative de transférer la religion dans la sphère privée. Donc c'est un acte de la puissance publique et à ce moment-là, l'État devient libre. Voilà, parce qu'il n'a plus besoin de s'appuyer sur une religion comme ça a été le cas. Voilà, c'est important. Les deux articles que vous avez lus, ils sont capitaux. Je voudrais juste les lier tous les deux. Alors, dans le premier article, et c'est vrai que c'est le premier message de la loi, l'État assure la liberté de conscience. Alors, à la différence de la formule de 1789, que je vous la rappelle, nul ne doit être inquiété, nul ne peut être inquiété pour ses opinions, même religieuses. Ça signifie que je ne serai libre en 89 de penser, de croire, que si l'État s'abstient, que si l'État n'intervient pas. Ça, c'est le libéralisme politique. La formule donc, de ce premier article, elle est différente. Dans le premier article, c'est l'État assure la liberté de conscience. L'État garantit, ce qui signifie que l'État, la République, a des obligations positives. C'est-à-dire que la République doit mettre en place plein de choses. Elle ne doit pas se contenter de s'abstenir. Ça, c'est absolument capital. Pour comprendre toutes les dispositions de la loi de 1905, il faut les comprendre à la lumière de ces verbes-là. Voilà, je suis obligé, je dois avoir une action positive pour protéger ces deux grandes libertés. Donc derrière, ben voilà, je vais mettre en place des associations culturelles, etc., etc. La liberté de conscience, comme je l'ai précisé, n'est absolument pas réductible à la liberté de croire ou de ne pas croire. Mmh. Et donc, la liberté de conscience, on a une conscience, vous savez, c'est un droit naturel. On a un cerveau, donc on pense. Voilà. On a un cerveau, donc on a des opinions. Une opinion, c'est volatile. Voilà, je suis pour les langues régionales, je suis contre. C'est volatile, ça peut changer. Mais j'ai un cerveau, donc je peux aussi avoir des convictions très profondes. Et je peux avoir des convictions, bien évidemment, religieuses, c'est une croyance, j'ai la foi, mais je peux aussi avoir une conviction philosophique très profonde. Si je suis profondément pacifiste, eh bien, je refuserai de faire un service militaire. C'est ça, la liberté de conscience. Et donc, quand on entend tout le temps, tous les jours, depuis des années, que la laïcité, c'est la liberté de croire, mais c'est une erreur monumentale. Voilà, parce que la laïcité n'est pas une liberté. La laïcité, c'est un principe de séparation pour protéger la liberté de conscience. Et quant à la liberté de culte, donc, les cultes deviennent affaires privées. Affaires privées, ça ne veut pas dire affaires individuelles. Affaires privées, c'est juste que les cultes en France ne sont plus des services publics. Donc, ils relèvent de la société, ce qu'on appelle la sphère privée. C'est-à-dire qu'ils sont hors service public, mais on peut exercer son culte tout seul, mais on peut bien évidemment exercer son culte au sein d'une communauté religieuse. Et ce qui est important pour quand on définit la laïcité, c'est de repérer, comme vous le dites effectivement, que le premier message, c'est la liberté de conscience, mais c'est surtout de lier ces deux premiers articles. La non-reconnaissance, la séparation, c'est une technique juridique au service de deux grandes libertés. Toutes les démocraties dans le monde ont ces deux libertés, on n'est pas particulier à ce niveau-là. Mais nous, en France, on a choisi en 1905 de les garantir en séparant. Donc la laïcité, fondamentalement, c'est la séparation. Encore faut-il savoir pourquoi on sépare. Voilà.
Yannis Röder.
Un petit mot pour aller, évidemment, dans le sens de Frédéric, bien sûr. Mais effectivement, la République assure la liberté de conscience et garantit le libre exercice des cultes. On a deux verbes différents. Et ces deux verbes différents sont très importants. Ils sont très importants. L'État a un devoir absolu, de faire en sorte que vous ayez, que nous ayons chacun d'entre nous, cette liberté de conscience. Il doit y veiller. Il nous protège. Et il garantit le libre exercice des cultes. C'est-à-dire qu'il ne s'en occupe pas. Et si vous avez la volonté d'exercer votre culte, eh bien vous en avez la pleine liberté. Mais l'État ne s'en occupe pas.
Même audio ? Une mémoire sonore ?
Si on a un problème pour exercer son culte, on peut aller voir l'État pour dire « Je suis désolé, mais là, on a des difficultés. » Ça, on a le droit dans le cadre de la laïcité.
Vous avez, dans la loi du 9 décembre 1905, des articles, mais veux-tu en parler, Catherine ? Des articles qui relèvent de ce qu'on appelle la police des cultes, hein, articles 31 à 35 de mémoire, et qui permettent justement de veiller à ce que chacun puisse librement exercer son culte, mais aussi que chacun soit protégé de l'intervention, d'une intervention vous obligeant à exercer un culte. Voilà. Donc ça, c'est extrêmement important. Ces articles, ils ont toujours force de loi. Force est de constater qu'on ne les utilise pas beaucoup. Voilà. C'est le député Jérôme Guedj qui me faisait cette remarque il n'y a pas si longtemps que ça. Oui, hier soir, en fait.
Catherine Kinzeller.
Mais oui, c'est une loi anti-pression, parce que quand on dit comment elle fait pour assurer et puis pour garantir, eh bien, il faut des lois pénalisantes. Hein. Donc, on assure en pénalisant les pressions. Si quelqu'un fait pression sur vous pour que vous adoptiez un culte et que ça, vous ne le voulez pas, c'est pénalisé, c'est l'article 31. Mais inversement, si quelqu'un fait pression sur vous pour que vous quittiez une religion ou que vous deveniez un croyant, c'est pareil. L'État va intervenir. Hein. Donc ça, c'est très important. Et si un culte ne peut pas s'exercer parce qu'on l'en empêche, on l'empêche de se constituer en association, par exemple, eh bien, l'État doit intervenir. Donc il met à disposition des cultes des formules juridiques qui lui permettent de s'exercer, de se constituer, de se regrouper. Voilà. Et moi, si j'ai envie, après tout, de... Alors, on parle, par exemple... Je vais prendre un exemple très, très, très courant. Les prières dans la rue... ou les prières de rue. C'est pas la même chose. Bon, vous faites une petite prière dans la rue, sur un banc, discrètement. Ça s'appelle une prière dans la rue. Personne ne peut vous en empêcher. Mais vous réunissez un petit groupe à l'entrée d'un métro, par exemple. Vous distribuez un petit tract sans embêter les gens. Vous pouvez le faire. Ce que fait l'armée du salut, par exemple. Enfin, ou d'autres peuvent le faire. Maintenant, vous convoquez un grand rassemblement et vous faites, sans le déclarer, vous occupez toute la largeur de la voie publique en stationnant, en vous agenouillant, en chantant. Enfin, là, vous troublez l'ordre public. Et donc, ce sont d'autres libertés qui sont menacées, qui sont entravées. Et là, l'État va intervenir. Vous voyez, donc il y a tout une dialectique, hein, pardon pour les gros mots, entre liberté et contrainte. Il y a des moments où la contrainte assure la liberté, mais ça tout le monde le sait parce que vous vous arrêtez au feu rouge, je suppose. Bon, eh bien ça veut dire qu'on peut passer au feu vert. Alors qui a le feu vert pendant que moi j'ai le feu rouge? Quelqu'un d'autre. Mais en fait, c'est moi. C'est moi, je suis des deux côtés.
Yannis Rader.
Oui, ce que dit Catherine est très important, c'est-à-dire que ce que vous avez lu quand vous avez lu l'article 1er, c'est que l'État garantit le libre exercice des cultes dans le cadre de l'ordre public, hein, du maintien de l'ordre public. Et effectivement, le libre exercice des cultes ne signifie pas que l'on puisse dire ce que l'on veut dans le cadre d'un culte tenu dans un bâtiment dédié à cet effet. Hein, et ça, c'est très important. Entre 1905... et 1914, vous avez des centaines de prêtres qui sont arrêtés, qui ont des amendes, et certains vont en prison, parce qu'ils se sont élevés pendant le culte contre la loi de 1905. Et vous avez même des évêques qui sont condamnés. Quelques évêques, pas beaucoup. On s'en prend plus à des curés, c'est plus facile.
Donc la loi ne s'arrête pas aux portes des églises?
Non, la loi ne s'arrête pas aux portes des églises. Et quand le Vatican dit cette loi est une loi inique, etc., et j'ordonne aux évêques en France de ne pas y obéir, mais en plus de prêcher contre la loi, eh bien l'État, et c'est Aristide Briand, qu'on présente souvent comme libéral, entre guillemets, il n'est pas libéral, Aristide Briand, hein, c'est un républicain. Il fait son travail et l'État fonctionne et l'État condamne des centaines de prêtres. Et ça va durer jusqu'en 1914. Alors en 1914, ça se calme un peu parce qu'on a trouvé un ennemi commun, on se met tous d'accord et hop, on monte à la frontière. Mais voilà. Et après la guerre, ça va se calmer. Il y a des accords en 1924 avec le Vatican qui vont calmer les choses. Mais je veux dire par là que la loi de 1905, elle ne s'est pas installée, elle a été plébiscitée par les Français au moment des élections, hein, mais en 1906 notamment. Mais ça ne s'est pas fait sans douleur, et notamment sans douleur pour l'Église catholique.
On va justement avancer un peu dans le temps pour arriver à la période, on va dire, contemporaine. Enfin, on va faire un petit stop à la fin du XXe siècle. Et juste après, on va dire, la Première Guerre mondiale, et jusqu'à la fin des années 80, comment est-ce qu'on peut qualifier la laïcité à la française? Est-ce que ça se passe bien? Est-ce qu'il y a des heurts? Est-ce qu'il y a des périodes où c'est difficile? Est-ce qu'il y a des débats? Est-ce qu'il y a des polémiques? Ou c'est vraiment à la fin des années 80 que cette laïcité va être re-questionnée?
Dans l'ensemble, on peut dire que ça se passe assez bien, parce que, en fait, on s'arrête presque de penser. C'est devenu évident. Moi, quand j'ai fait mes... Bon, quand j'étais à l'école, ça allait de soi. Ça allait de soi. Bon, on s'abstenait de toute déclaration religieuse. Les instituteurs n'affichaient pas de signes religieux, etc. Donc, il y avait une espèce d'évidence qui était aussi un assoupissement intellectuel. Bon, il y a eu quand même des grignotages de la laïcité pendant cette période. Je pense aux lois scolaires, aux lois Debré, lois Germer, de financement de l'école privée. Mais ça, peut-être Frédéric nous en parlera de manière plus précise que je ne saurais le faire. Donc, il y a eu un moment d'assoupissement et d'évidence, tout allait de soi. On ne se rendait pas bien compte qu'au fond, la laïcité instaurera un régime que j'appelle une dualité. D'une part, le principe de laïcité s'applique strictement aux agents publics, aux magistrats, à tout ce que Frédéric, tu appelles avec les juristes la sphère publique. Et puis, elle ne s'applique pas sur le reste. Donc, la laïcité, c'est un ensemble vraiment défini par la loi. Bon, et le reste, bon, moi, professeur, quand j'étais dans ma classe, bien entendu, je m'interdisais tout affichage religieux, toute opinion politique, etc. Mais quand je sors, je reprends les droits. Il faut faire attention. Parce que quand on y dit que vous interdisez tout, non, il y a vraiment, c'est un domaine très limité. Mais ça, on ne s'en rendait pas très, très bien compte, on le faisait spontanément. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bon, c'est en 1989 que ça a explosé.
Alors, on va le rappeler pour les plus jeunes, parce que finalement, 1989, ça commence à remonter un petit peu. Oui. Qu'est-ce qui se passe en 1989?
C'est ce qu'on appelle l'affaire du voile du collège de Creil, dans l'Oise. Il y a des collégiennes qui se sont présentées à la rentrée de septembre, oui. J'étais juste avant les vacances. Alors, on n'appelle plus ça les vacances de Toussaint, hein. Ça ne se dit plus maintenant. Hein. On ne dit plus. Hein.
Ah bah si, on dit les vacances de Toussaint.
Les vacances de Toussaint, parce que j'y suis plus là-bas, d'automne, oui. Bon. Eh bien, alors, elles se sont présentées avec un voile sur la tête, et puis on a dit, bon, ben non, on ne peut pas porter un voile. Ah, ben là, ça s'est discuté. Et on a découvert, finalement, qu'il n'y avait pas de texte vraiment décisif. Si, il y avait eu les circulaires Jean Zay de 1936 et 1937, mais ce n'était pas des lois, c'était des circulaires. Alors, nous avons eu toute cette... Ça a déclenché... Bon, une affaire médiatique, bien sûr. Aujourd'hui, ça serait par les réseaux sociaux que ça serait passé. Peut-être que ça n'aurait pas été une si bonne chose.
Pour les jeunes, il n'y avait pas les réseaux sociaux à l'époque. Hein. Bon, ça allait un peu moins vite, mais ça avait fait du bruit quand même.
Ça avait fait du bruit. Et puis, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas bien pensé cette dualité. Ou du moins, elle n'était pas explicite dans nos têtes. Et nous avons eu la bonne question. La bonne question, c'était des gens qui étaient opposés à la laïcité, mais ils ont posé la bonne question. Oui, vous, les professeurs, l'État, l'établissement, vous êtes tenus par le principe de laïcité. Mais les élèves, ils sont dans la société, ils sont dans la sphère, dans l'autre sphère privée, alors ils peuvent bien venir. Ça, c'était très bien articulé. Qu'est-ce que vous allez répondre à ça? Eh bien, voilà, il a fallu réfléchir. Il a fallu réfléchir. D'abord, on s'est bien rendu compte qu'il s'agit d'une dualité, que c'est un régime de dualité, c'est ce que j'appelle la respiration laïque. Vous passez d'un domaine à l'autre, ça respire, vous n'êtes pas tout le temps soumis au principe de laïcité et vous n'êtes pas tout le temps dans la liberté de l'opinion. Et de toute façon, elle n'est pas complètement libre puisqu'il y a des choses qu'on, même en privé, on n'a pas le droit de tuer, on n'a pas le droit, bien, on n'a pas le droit de dire des injures, etc. Bon, eh bien, on s'est dit, mais comment fonctionne l'école? Les circulaires Jean Zay, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il a fallu se demander pourquoi les élèves qui vont à l'école... Alors, on a dit, non, ils ne sont pas vraiment soumis au principe de laïcité comme le sont les professeurs, par exemple. Hein? La loi de 2004, bon, il a fallu 15 ans. Moi, j'ai participé à ce texte en 89 qui disait, mais voilà, si vous admettez les signes religieux à l'école, en particulier le voile, vous donnez raison à ceux qui disent, puisque l'école... t'acceptes comme ça, alors tu dois être comme ça, partout, tout le temps. Ça, c'est le discours de l'intégrisme, au sens strict du terme. Bon, donc, on avait soulevé ce problème. Et il a fallu réfléchir. Et c'est ce qu'a fait la commission, la fameuse commission Stasi, qui a été réunie et qui a débouché sur la loi de 2004. Oui, les élèves ne sont pas complètement assimilables à des usagers au sens ordinaire du terme. On ne vient pas à l'école... comme on vient chercher un papier à la mairie, comme on vient utiliser un service public. on y vient pour s'auto-constituer. Et là, on retombe sur la question des savoirs, mais j'en ai parlé tout à l'heure. Donc, comment on va faire ? On va leur demander un moment de suspension, un moment où ils vont non pas rompre avec leurs appartenances, mais on va pouvoir leur ouvrir un espace qui n'est pas épuisé par leur appartenance, qui n'est pas entièrement recouvert par leur appartenance. Et ce n'est pas non plus un espace interconvictionnel. Ce n'est pas en alignant un petit musulman, une petite catholique, un petit juif. On allait oublier le petit incroyant aussi. Il faut y penser à celui-là quand même. Mmh. Le droit de non-appartenance, c'est important aussi. Eh bien, voilà, on va ouvrir cet espace momentanément, le temps scolaire, parce que le reste du temps, ben, vous êtes, vos appartenances, vous les retrouvez. Et on va leur montrer qu'il y a autre chose, il y a de l'air. C'est par le savoir que ça passe. J'en ai parlé tout à l'heure.
Je vais relire quand même, parce qu'on on a beaucoup de jeunes, et on parlait des réseaux sociaux juste avant, qui s'expriment sur les réseaux sociaux en parlant de la liberté d'expression, justement. Et je vais relire quand même, après l'affaire du foulard, il y a le Conseil d'État qui a été saisi, et il y a eu une circulaire qui expliquait « Le port de signes religieux par les élèves n'est pas lui-même incompatible avec le principe de laïcité dans la mesure où il relève de l'exercice de la liberté d'expression. » Ça, c'était après 89. Et c'est vrai que là, on est sur un concept qui est un peu compliqué aujourd'hui à expliquer. Je crois que Frédéric de la Morena connaît bien, fait non. Mais c'est vrai que pour beaucoup de jeunes, on entend parler de ce principe de liberté d'expression. On pourrait aller jusqu'au bout en disant que c'est la liberté de conscience de 1905 qui vient s'opposer. Est-ce qu'on a le droit de ne pas faire ou pas ? C'est ma liberté d'expression, je vais rentrer dans un endroit, mais je n'ai pas envie de laisser à la porte ce qui me constitue. Est-ce que c'est une partie du problème qu'on vit aujourd'hui ?
Alors, il y a 89 et aujourd'hui, il y a la liberté de conscience et la liberté d'expression. La liberté d'expression, elle est différente de la liberté de conscience. En 89, elle est proclamée dans l'article 11, tout de suite après. Le 10, c'est la liberté de penser. Et de suite après, c'est la liberté d'expression. Mais le Conseil d'État, en 89, en fait, c'est le ministre de l'Éducation nationale qui n'a pas légiféré sur la question du port de signes par les élèves dans les écoles publiques. Il aurait pu le faire, il ne l'a pas fait. Et donc, il a demandé son avis au Conseil d'État. Et le Conseil d'État, qui n'a donné qu'un avis, a dit, voilà, moi, mon avis. Les élèves peuvent venir avec des signes d'appartenance religieuse. Après, il y a des limites, effectivement, qui sont listées. La question, c'est que cet avis n'a pas réglé les problèmes. Et les chefs d'établissement n'ont pas réussi à ramener la sérénité dans leurs établissements. Et politiquement, la question, vous posiez tout à l'heure la question de savoir à partir de quand la laïcité a commencé à chanceler un petit peu. Pourquoi c'est 89 ? Parce que là, il y a deux grandes familles politiques qui ont commencé à s'affronter. Il y a ceux qui, effectivement, pensent que le principe de séparation qu'on a depuis 1905 empêche que l'expression religieuse entre dans la sphère publique. Et il y en a d'autres qui pensent qu'il faut ouvrir la sphère publique aux diverses expressions religieuses. On n'en est pas encore sorti de cette dualité politique. Et donc c'est à partir de là qu'est apparue ce qu'on appelle une laïcité adjectivée. Voilà, ouverte, plurielle, tolérante, inclusive, maintenant c'est nouveau, positive, et les évêques, ils parlent de laïcité saine. Ils reprennent un adjectif de Pie XII. Voilà. Donc ça veut dire qu'à l'inverse, voyez, il y a une laïcité intolérante, fermée, exclusive. On vit avec ça actuellement. Ça, c'est la cassure de 89. Voilà. Et la deuxième chose, la liberté d'expression. La liberté de conscience, elle ne peut jamais être atteinte, puisque c'est une liberté du fort interne. J'ai un esprit, donc je pense. La liberté d'expression, c'est le fait d'extérioriser. Et celle-là, elle peut toujours être limitée, pas particulièrement au niveau des élèves. Elle est en soi limitée par tout un ensemble de... Il y a plein de choses qui limitent la liberté d'expression. Donc on pouvait tout à fait... Mais ça, c'est le législateur qui devait décider, c'est ce qu'il a fait en 2004, décider non pas de porter atteinte à la liberté de conscience des élèves, mais juste de leur dire qu'ils ne peuvent pas exprimer, en portant un signe ou une tenue, manifestement leur appartenance religieuse. Il faut bien différencier les deux. Ce sont deux libertés différentes qu'on a depuis 1789.
Yannis Röder, si on arrive à la loi de 2004, donc qu'est-ce qu'elle pose comme base, cette loi de 2004? Et après, on va parler de ce qui se passe aujourd'hui comme atteinte à la laïcité, mais aujourd'hui, on en est où au niveau de la loi par rapport à la laïcité?
Alors, la loi de 2004, elle est votée très majoritairement hein, à l'Assemblée le 15 mars 2004. Après, le travail fait par la commission Stasi, puisque le président de la République à l'époque, Jacques Chirac, face aux problèmes qui remontaient du terrain, c'est-à-dire que, Frédéric l'a dit, il y avait beaucoup de problèmes, puisque l'arrêt du Conseil d'État, qui a été suivi par une circulaire du ministre François Bayrou, ministre de l'Éducation nationale à l'époque, en 1994, ne permettait pas de régler le problème, puisque le port de signes manifestant une appartenance religieuse était possible, mais il ne fallait pas qu'il y ait prosélytisme, il ne fallait pas, ça c'est dans la circulaire Bayrou, qu'il y ait des problèmes d'égalité femmes-filles-garçons, etc. Comment juger de cela pour un chef d'établissement? C'est extrêmement compliqué, d'autant plus qu'il s'y ajoutait l'obligation d'assiduité. L'obligation d'assiduité, c'est l'obligation de présence à tous les cours. Donc, c'était très compliqué. Les tensions se multipliaient. Et donc, le président de la République a décidé de réunir une commission de 20 personnes. Commission dans laquelle ne se sont trouvés aucun religieux. Aucun. Et c'était volontaire. Puisque il fallait pas que les religieux éventuellement présents tirent la couverture à eux, etc. Voilà. Il s'agissait vraiment d'avoir une commission d'intellectuels, femmes et hommes, ou de praticiens, c'est-à-dire d'acteurs de terrain, qui étaient capables d'analyser et qui ont réalisé des dizaines et des dizaines d'auditions et qui ont décidé, dans leur rapport qui a été voté à 19 voix pour et une abstention, de proposer, entre autres, le vote d'une loi pour interdire la manifestation d'une appartenance religieuse par le port d'un signe extérieur visible. C'est devenu la loi du 15 mars 2004 et qui a été suivie par une circulaire d'application du 18 mai 2004 qui dit que est interdit toute manifestation, tout signe, pardon, tout port de signe manifestant ostensiblement une appartenance religieuse. Voilà. À partir de là, au printemps 2004, pardon, au printemps 2004, on a entendu, et dans la presse, hein, vous pouvez le retrouver dans la presse, mais ça va être terrible parce qu'à la rentrée 2004, vous allez voir, il y a beaucoup de jeunes, et notamment des jeunes filles, mais pas uniquement, qui ne viendront plus à l'école et qui vont être déscolarisées, qui vont quitter l'école. Et ça, c'est très grave. Et bien, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. C'est absolument pas ce qui s'est passé. À la rentrée de 2004, les élèves qui portaient un signe manifestant ostensiblement une appartenance religieuse ont commencé à les enlever à l'entrée des collèges et des lycées. Et ils et elles l'ont fait de manière massive, en fait. Hein, il y a eu quelques cas, effectivement, de déscolarisation, mais en réalité, très peu. Très peu. Et ce qui est remonté du terrain, et assez vite, c'est que la loi du 15 mars 2004 est apparue comme une loi d'apaisement. Elle a apaisé les tensions à l'école, les choses étaient claires, l'institution avait parlé, enfin l'État avait parlé, l'institution avait relayé par la circulaire d'application du 18 mai 2004, et donc tout cela était cohérent parce qu'on avait perdu en fait la cohérence puisque d'un établissement à l'autre, les choses étaient gérées de manière différente. On a retrouvé avec la loi la cohérence et surtout, elle a été acceptée et très bien acceptée par l'immense majorité, évidemment, des fonctionnaires, mais surtout des élèves.
Alors, aujourd'hui, et avant de donner la parole à la salle, Catherine Kinsler, comment se porte cette laïcité française? Et quand on parle d'atteinte à la laïcité, on parle de quoi aujourd'hui?
Je voudrais juste ajouter que cette loi, oui, une loi d'apaisement, une loi de cohérence et de clarification, parce que ce qui allait de soi autrefois, eh bien, maintenant, on sait pourquoi. La loi donne une assise à ce qui allait de soi et lui donne une assise intellectuelle, parce que c'est pas comme je le dis, ce n'est pas vraiment l'application du principe de laïcité stricte aux élèves. Ils ont la liberté d'expression plus que leurs professeurs même. Hein, il y a une loi là-dessus aussi, la loi elle est de 89, je crois aussi, cette loi. Bon. Et ils ont, les signes discrets sont possibles également. Bon, je le rappelle tout ça.
Les signes discrets, oui, c'est les signes ostensibles.
Voilà,
les signes discrets sont tolérés.
Les manifestations qui sont visées et non pas tel ou tel signe. Il n'y a pas de liste non plus, parce que quand on se lance dans des listes, on en oublie toujours. Mm-hmm. Hein, et puis ce que je voulais dire, c'est donc le principe qui a été vraiment éclairé par cette loi. Enfin, moi, je le vis comme ça en tant que philosophe, c'est que l'école doit offrir une double vie à chaque élève. Elle offre une double vie à chaque élève en lui disant, ici, tu n'es pas rivé à ton appartenance. On ne va pas te demander de la renier, mais tu n'y es pas rivé. Voilà. Et donc, il va falloir ouvrir un petit peu. On s'enferme dans l'école et paradoxalement, on ouvre les fenêtres vers un horizon plus large, vers un océan de savoir sur lequel il va falloir naviguer. Voilà ce que je voulais dire. Alors, les atteintes à la laïcité, oui, nous en vivons. Il y en a toujours eu d'une certaine manière, mais nous les vivons. Nous en sommes beaucoup plus conscients aussi, parce que nous avons plus d'outils pour les déterminer, pour les caractériser. Donc, il y a de plus en plus d'atteintes à la laïcité, mais elles ne sont pas seulement sous la forme de signes de port, de signes ostensibles. Elles sont sous des formes extrêmement variées et qui sont très graves, souvent. Par exemple, la remise en question des cours, du contenu de cours. Je crois que là, je parle devant un professeur d'histoire, il en sait plus que moi là-dessus, mais je pense que moi, si j'avais continué à enseigner plus tard, enfin, si j'avais été plus jeune, quoi, hein, bon, eh bien, j'aurais pu avoir quelques ennuis avec des textes, hein, des textes de Spinoza, par exemple, ou même des textes de Descartes, ou des textes de Voltaire. Bon, eh bien, voilà, il y a des remises en question de cours, il y a des remises en question de l'éducation physique, de la piscine. Toutes ces choses-là remontent et nous ne pouvons pas les négliger en disant « c'est pas grave, c'est de la liberté, etc. » Non, il y a un test de la République. Ce sont des tests. Jusqu'où la République va-t-elle fermer les yeux, hein, être bonne fille et puis dire « tout ça, c'est pas grave », mettre ce qu'on appelle la poussière sous le tapis. Non, il faut appliquer les lois. Il faut appliquer les lois. Les lois sont libératrices pour tout le monde. Elles concernent tout le monde. Personne n'est visé en particulier. Aucune religion n'est persécutée. Tous les cultes sont tenus à égale distance de la République. Aucun ne fait la loi. Et puis, momentanément, on suspend les appartenances. On les retrouve à la sortie. Et voilà, ça s'appelle la respiration laïque.
Hein. Yannis Schroeder et ensuite Frédéric de la Morena.
Oui, ce qui me semble important, c'est que ce qu'on appelle les contestations d'enseignement, c'est ce dont vient de parler Catherine, c'est-à-dire le fait de contester ce que dit le professeur qui s'appuie sur sa science, hein, et qui est le relais de sa science, c'est que cela témoigne en fait de l'incapacité du jeune ou de la jeune qui vient contester de dépasser ce qu'il pense être une identité totalement figée. En fait, totalement figé, et un devoir d'obéissance absolue à une croyance absolue, en fait. Et en fait, c'est tout le contraire de l'école de la République. Puisque l'école de la République, justement, elle s'appuie sur la science, et donc par définition sur le doute, et donc n'enseigne pas une vérité révélée. Elle n'enseigne pas une vérité révélée. Elle enseigne la science en l'état actuel de la science. Et donc, Ce sont deux, là vient se cogner contre cette possibilité offerte de la liberté, en fait, un dogme qui, lui, par définition, est le contraire de la liberté. Puisque la personne, même si elle l'a choisi, s'est enfermée dans un dogme, ce qui est tout à fait son droit à l'extérieur de l'école, mais elle ne doit pas le manifester à l'intérieur de l'école.
Quand on parle de jeunes collégiens, c'est difficile de dire ça. Parce que de l'extérieur, on peut dire « il s'est enfermé, elle s'est enfermée dans un dogme », par la famille, par la... Mais quand on est un jeune de 13-14 ans et qu'on a l'impression qu'on nous a dit des choses et qu'on a une croyance profonde, et quand on a un professeur qui nous dit l'inverse, on se dit pas « je suis porteur d'un dogme et je vais contre le professeur », on se dit « ben moi je dis ce que je pense et le professeur n'est pas d'accord, ben moi je suis pas d'accord avec lui ».
Bien sûr, vous avez tout à fait raison, c'est-à-dire que on est le produit d'abord, enfin on est le produit, on n'est pas le produit, on est l'enfant de nos parents. Vous savez, moi j'enseigne et quand je dis à mes élèves qui souvent, dans un premier temps, ont du mal à comprendre et le principe de laïcité et la loi de 2004, je leur dis mais voilà. Et ils le disent au nom de la liberté. Voilà, moi, ma liberté, c'est de venir comme je suis. Hein, c'est le slogan de McDo, hein, venez comme vous êtes. Et donc, je devrais avoir le droit de venir comme je suis. Voilà. OK, ça, c'est la liberté. Alors, moi, je pose une question toute bête à mes élèves. Qu'est-ce qui fait qu'on est croyant ou non-croyant ? La plupart du temps, bien évidemment. Il y a toujours qu'une exception, voilà. Quelqu'un qui a vu l'apparition.
La
révélation. Voilà. Ça peut arriver, bien sûr. Les psychotiques, ça existe. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on est croyant ou pas croyant ? Bah, les élèves le disent. Ce sont les parents. Bah oui, évidemment, ce sont les parents. Et est-ce que vous avez choisi ? Ah bah non, c'est les parents. Bien. Alors, il ne faut pas critiquer ça, c'est un fait. Mais simplement, il faut ajouter, bien, eh ben, l'école de la République, elle va te proposer, elle ne va pas t'imposer. Elle va te proposer de t'ouvrir au monde, de découvrir par la science et par l'usage de la raison des enseignements que, à la maison, tu n'aurais peut-être pas découvert. Beaucoup, tu vas t'ouvrir sur l'art, sur la musique, sur la science, sur le sport, et tu te construiras de manière autonome. Et tu vas, comme le disait Catherine, t'auto-constituer. Tu vas t'auto-constituer et le rôle de l'école de la République, c'est de t'offrir la possibilité de l'émancipation, c'est-à-dire la possibilité de devenir un citoyen conscient de ta liberté et conscient du sens de l'intérêt général. Voilà. Tu en fais ce que tu veux. C'est-à-dire que une fois qu'on a fait les 15 ans d'école, 16 pour ceux qui traînent, les 15 ans d'école, libre à chacun de retourner à ses appartenances premières. L'école n'a plus rien à dire et l'État n'intervient pas. L'État n'a pas à intervenir. Et donc, c'est cela qu'il faut expliquer aux élèves et qu'il faut leur expliquer de manière apaisée. Nous, quand je dis nous, c'est l'école, parce que je suis professeur, comme mes collègues, nous proposons l'accès à la liberté. Et ils en disposent comme ils le souhaitent. Il n'y a pas d'obligation à adhérer, il n'y a pas d'obligation à devenir libre. Je souhaite quand même que le plus d'entre eux, d'entre elles, accèdent à cette émancipation, capables donc de penser par eux-mêmes.
Frédéric de la Morena.
Alors, pour finir sur l'école, alors bien sûr, je suis d'accord voilà, avec eux. Ce qu'ils décrivent, c'est la laïcité. Pourquoi ? Parce qu'ils décrivent la séparation entre le croire et le savoir. Parce que cette séparation entre la sphère publique et la sphère privée, c'est la séparation entre l'intérêt général, l'intérêt particulier et l'intérêt collectif. C'est la séparation entre la citoyenneté et la confessionnalité. C'est la séparation entre la règle de droit et la règle de Dieu. Et pour les profs, ce qui est fondamental, c'est la séparation entre le croire et le savoir. Pour répondre à votre question, les élèves, les jeunes, ils ont souvent des conflits de loyauté. Ça, les profs, oui. Moi, je travaille beaucoup avec eux. Voilà, ils ont énormément de conflits de loyauté, c'est-à-dire, voilà, je dois être loyal à ma famille, je dois être loyal à ma religion, ce qui est entendable et ce qui n'est pas critiquable. Mais je dois aussi être loyal parce que je suis un élève et j'aime mes profs, etc. C'est très difficile à gérer. Je ne parle pas de l'université, c'est un autre monde. Mais dans le premier degré, dans le second degré, ça, c'est très difficile pour les jeunes profs à régler. Et essayer de leur faire comprendre que ce qui se passe à la maison relève, au niveau religieux, relève du croire, mais que ce qui se passe ici relève du savoir, ça peut peut-être les aider à comprendre justement que ben, dans la vie, il y a les deux choses. Et qu'après, il fera ses propres choix. J'aurais cité Régis Debré dans L'éloge de nos maîtres. Vous savez, à la fin de mon année de mieux, il fait un texte magnifique, moi, je trouve. Il disait, à la fin de mon année de philo avec Muglioni, je pouvais me tromper tout seul. C'est ça qu'apporte la laïcité. Peu importe qu'il se trompe ou pas, mais qu'il le fasse tout seul. Mais voilà.
Quand je vous parlais, moi, des atteintes à la laïcité, je parlais un peu de ça. C'est, est-ce qu'elles sont, en ce moment, beaucoup, et par rapport aux professeurs, volontaire ? Est-ce que c'est une sorte d'agression contre la laïcité, des provocations ? Ou est-ce qu'il y a beaucoup d'atteintes à la laïcité qui sont justement ce fameux conflit qu'il y a entre le croire et le savoir, qu'on m'a appris, le conflit de loyauté, oui, plutôt pour l'école. Comment vous le voyez au niveau de l'école ?
Alors, hors l'école, s'il y a atteinte à la laïcité, il faut savoir ce qu'est la laïcité. Si la laïcité est un principe de séparation, donc quand on parle d'atteinte à la laïcité, c'est qu'on parle d'atteinte au principe de séparation. Donc ça veut dire que attenter à la laïcité, c'est attenter à cette frontière protectrice entre la sphère publique et la sphère privée. Donc les atteintes, c'est justement à l'école, voilà, faire rentrer le religieux à l'école, mais dans tous les services publics. Les collectivités territoriales, ce sont les collectivités qui sont le plus confrontées à des atteintes à la laïcité, c'est-à-dire aux usagers, aux communautés qui exigent du service public qu'ils s'adaptent, qu'ils prennent une règle particulière pour eux.
Mais c'est ça, par méconnaissance ou par provocation ?
Alors, il y a plein de choses. Ouh là, alors là.
Alors... Vous aviez raison tout à l'heure de dire qu'au collège, par exemple, les élèves peuvent avoir entre 11 et 15 ans et que parfois, de bonne foi, ils entendent quelque chose qui vient heurter ce qu'on leur a toujours enseigné à la maison et ils vont protester en disant « Mais non, mais moi, j'ai jamais appris ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Et il ne faut pas nécessairement y voir une agression contre l'école et contre la laïcité ou contre la République. Un enfant, parce que ça reste quand même des enfants, ont le droit d'exprimer ce qu'ils ressentent, charge au professeur de répondre de manière apaisée, d'apporter les explications, d'expliquer pourquoi, justement, à l'école, on fait ce qu'on est en train de faire et pourquoi on le fait de la manière dont on est en train de le faire. C'est extrêmement important. Il faut donner du sens à ce qu'on fait. Il faut expliquer quelle est notre posture et quel est notre discours. C'est extrêmement important. Alors, effectivement, si l'élève s'entête, là, on peut considérer que nous sommes face à une contestation d'enseignement. Si l'élève dit « Ah bon, d'accord, effectivement, moi je voyais ça comme ça parce que chez moi ça se passe comme ça. Bon, voilà.
On est dans la pédagogie.
La question a été réglée. Il faut souhaiter que l'élève ait compris. Encore une fois, on ne lui demande pas d'adhérer. On lui demande à ce qu'il ait compris et qu'il respecte ce que dit le professeur et la mission de l'école. Voilà. Parce que la mission de l'école, elle est double, hein. Transmettre les connaissances et faire partager les valeurs de la République. C'est très important, ça. Et souvent, on oublie que faire partager les valeurs de la République, c'est le deuxième pilier des missions de l'école et qui est extrêmement, extrêmement important. Donc, pour finir de répondre à votre question, ça dépend vraiment, en fait. Chaque cas doit être pesé, chaque cas doit être analysé par les enseignants. Et moi, je crois que je suis un éternel optimiste. Je crois que l'immense majorité des contestations sont le fait d'élèves qui le font de manière un peu machinale, de manière un petit peu parfois, on va dire, passionnelle, parce qu'on touche à quelque chose qui, chez eux, est bousculé. Et la plupart, me semble-t-il, des contestations se règlent en classe, par le savoir-faire des enseignants, par leur capacité à répondre, à apporter les bonnes réponses et à adopter la bonne posture. Et donc, je pense que la majorité des contestations, nous n'en entendons jamais parler. Voilà.
Merci. Je vais profiter du changement d'interprétariat. Je vais leur laisser le temps d'échanger la place pour applaudir d'abord, pour l'instant, les intervenants.
Même audio. Vous ne l'avez pas vu ? Vous pouvez l'entendre.